Ici, maintenant, c'est Au bout de ma life, un événement conçu à mille mains avec le collectif à la croisée des savoirs, le château de Gouttelat, avec le soutien de Loire-Forez Agglomération. Dans le cadre de ce festival, le collectif pluridisciplinaire Carton Plein et son labo Vieillir Vivant, en association avec Radio Super, proposent 4 tables rondes qui saisissent chacune une problématique forte autour du vieillissement. Habitat, santé et bien-être, citoyenneté et politique sociale locale. Il s'agit donc ici, avec les acteurs du territoire Loire-Forez, d'éclairer collectivement aujourd'hui cette situation, ce qui se joue à l'échelle de notre société sur ce sujet, par la mise en valeur des initiatives locales portées par ou pour nos aînés, et surtout l'écoute des histoires de vie singulière.
Vieillir vivant.
Des rencontres inspirantes pour changer de regard sur le grand âge.
Vivant.
Parler des initiatives qui font du bien.
Vivant.
Apprendre à vivre avec envie.
Vivant.
Explorer un nouvel imaginaire du vieillissement.
Vieillir vivant.
Bonjour à toutes et tous. Soyez les bienvenus pour cette première table ronde. Nous allons discuter ensemble des questions d'habitat, sujet majeur dans les préoccupations de l'avancée en âge et du vieillissement. Tantôt redouté, tantôt mis sous la table, le chez-soi en vieillissant peut devenir un sujet complexe. Sujet de crispation dans les familles, cristallisant à la fois plein de tensions d'ordre éthique, financière, sentimentale, mais aussi les préjugés et le manque d'informations sur les institutions du grand âge, les aides à domicile, etc. Alors que toutes les politiques encouragent le maintien à domicile des aînés, émergent pourtant des nouvelles offres d'habitat répondant à une forte demande d'alternatives à l'EHPAD. Parmi ces dernières, nous retrouvons des initiatives privées, d'entreprises, d'habitants et de citoyens, mais aussi des projets portés par les communes urbaines, périurbaines et rurales. Mais c'est aussi tous les lieux d'accueil historiques qui sont bousculés et qui s'attellent à renouveler leurs projets d'établissement. Dans ces propositions, entre le chez-soi dans son domicile individuel, jusqu'au lieu collectif, voire médicalisé. La place du commun est au cœur des discussions. Alors, par commun, nous entendons tous les espaces partagés, intérieurs comme extérieurs, que ce soit des salles communes d'activité, les jardins, la relation à l'espace public, mais nous parlons aussi des services partagés, à domicile, interpersonnels, en centre-bourg, qui portent aussi la dimension du vivre ensemble et de la convivialité. Donc, faut-il du commun et quelle est sa place dans notre chez-soi et dans ces nouvelles formes d'habiter ? C'est ce dont nous voulions discuter avec nos invités du jour.
Donc, je vais présenter un peu nos invités du jour brièvement. À ma droite, nous avons Valérie Gouttefard, maire de Chalmazel, jansanière et déléguée à la politique locale de l'habitat et aux gens du voyage à Loire-Forez Agglo. Bonjour. Marie-Mélodie Barral, chef de projet du bureau d'études CODRA. Vous êtes spécialisée sur les questions d'habitat et réalisez actuellement pour Loire-Forez Agglo justement une étude sur le parcours résidentiel sur le territoire. Bonjour. Marie Melet, qui est ici au nom de la maison partagée d'Apinac, en cours de création je crois, et en tant que membre du conseil collégial de ce projet associatif. Bonjour.
Bonjour.
Et puis Jérôme Massacrier, directeur de la résidence Autonomie et directeur général à la mairie de Boin-sur-Lignon, commune petite ville de demain, et vous réfléchissez notamment aux perspectives de transformation du foyer résidentiel.
C'est ça, bonjour.
Bonjour. Et Fabienne Buchon, c'est une table très riche hein, d'invités, Fabienne Buchon qui est responsable du service foyer et maintien à domicile à Loire Habitat.
Bonjour.
Merci de votre présence, à vous six, et puis... On va peut-être commencer par Monsieur Gouttefard sur quelques questions.
Voilà, donc pour introduire, donc dans un territoire comme celui de Loire-Forez Agglomération, aux enjeux résidentiels diversifiés, partagés entre des territoires montagneux à l'habitat isolé et dispersé, et une plaine qui est plus fortement urbanisée et tournée vers Saint-Étienne, comment aborde-t-on la question de l'habitat ? Pouvez-vous nous présenter cette étude sur le parcours résidentiel commandé à CODRA ?
Alors, au niveau de Loire-Forez Agglomération, nous avons compétence habitat, comme la loi le prévoit pour les agglomérations. Donc, en fait, cette étude, elle s'inscrit dans notre PLH, notre plan local de l'habitat, qui a été voté en 2020 pour une période de 6 ans. 21 actions, donc des actions qui tournent autour des communes, des bailleurs sociaux et puis des aides à la personne, et tout un tas d'études qu'on peut monter, qu'on a lancées. Donc il y a une étude sur les logements vacants et cette étude pour connaître le besoin de nos personnes âgées. Voilà, donc on a missionné le bureau d'études CODRA, qui nous a fait un premier rendu et qui est assez intéressant et qui nous fait ressortir justement la pyramide des âges et le besoin de s'intéresser aux problèmes dès à présent pour les papis boomers qui vont arriver dans les 10 ou 15 ans à venir, et c'est assez parlant.
Très bien, merci. Marie-Mélodie, est-ce que vous pouvez d'ores et déjà nous partager les résultats de l'étude ? Est-ce que le sujet du commun émerge d'ores et déjà ou pas ? Et voilà, sous quelle forme, s'il y en a ?
Donc pour commencer, on pourrait réintroduire avec quelques chiffres clés. Ce qu'on observe, c'est qu'on a eu une augmentation de la population âgée qui est considérable. Alors à Loire-Forez agglomération comme ailleurs, le vieillissement subit partout en France. Mais l'objectif dans le cadre de cette étude, c'est de réussir à l'anticiper, à voir venir l'augmentation du besoin. Pour vous donner un chiffre, aujourd'hui sur l'agglomération, on a à peu près 1500 personnes de plus de 90 ans. En 2030, selon des modèles statistiques, on pourrait en avoir 2200, soit une augmentation de presque 50% de ces personnes-là, de plus de 90 ans. Et quand on s'intéresse à la tranche d'âge juste en dessous, 75 ans, 89 ans, c'est encore plus fort cette augmentation. Donc on va avoir des besoins élevés. Un élément qu'on doit prendre en compte quand on s'intéresse à ces besoins, c'est le souhait des ménages. On a fait une enquête dans le cadre de l'étude et on a 87% des répondants, de plus de 50, des personnes qui ont répondu à notre enquête, qui souhaitent rester chez elles. Il y a une peur de la structure collective, une crainte ou une mauvaise image, et en tout cas une volonté de rester chez soi. On a son confort, on veut y rester. Pour amener du coup progressivement la question du commun, on a étudié les projets qu'il y a sur l'agglomération, portés par des bailleurs sociaux ou des opérateurs privés. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a plusieurs initiatives qui sortent et qui intègrent ce besoin d'être chez soi. On voit qu'on a c'est une structure collective, mais des logements indépendants, chacun chez soi, et parfois la mise en place d'un espace commun comme une salle. On voit bien en tout cas que les opérateurs se posent de plus en plus la question. Donc on peut envisager pas mal de choses peut-être pour définir le commun. Il y a la mise en commun d'une salle partagée, c'est ce qu'on voit le plus souvent. Mais il y a peut-être d'autres sujets à évoquer, d'une chambre par exemple. Une chambre, quand on invite des gens, on peut vivre dans un logement plus petit parce qu'on sait que souvent le senior veut un T3 pour pouvoir accueillir la famille qui vient. Peut-être qu'on pourrait mutualiser cet espace-là. Il y a la question de la buanderie qui se pose pas uniquement pour le logement senior, mais c'est à la fois créer un espace commun pour la mutualisation, mutualiser des équipements, et aussi pour la sociabilisation. Là, on pense au jardin partagé. Les bailleurs sociaux travaillent sur ces sujets-là depuis un certain temps. Donc on voit qu'effectivement, pour répondre par rapport au projet qu'on a sur l'agglomération, cette question du commun se pose, mais pas systématiquement. On a des projets qui sortent sans espace commun, mais qui viennent proposer d'autres. Loire Habitat, vous allez nous parler de la veille bienveillante. On mutualise un service. Pas un espace, mais on mutualise un service tout à fait intéressant pour les résidents.
On peut vous donner la parole en rebond à cela.
Voilà, je peux compléter un petit peu. Ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années qu'on réfléchit effectivement et qu'on a identifié un besoin à la fois du logement autonome pour les personnes seniors, c'est-à-dire avant l'entrée en établissement, mais dans un contexte un petit peu plus sécurisé, un peu plus particulier que du logement familial, sans pour autant tomber dans la stigmatisation. C'est pour ça que nous, les projets qu'on met maintenant depuis une dizaine d'années, qu'on appelle résidence-service, s'inscrivent toujours dans un programme immobilier un petit peu plus large. En général, on a, par exemple, une allée sur laquelle on va flécher des logements seniors et puis une allée où on va flécher plutôt du logement qu'on va qualifier de familial, traditionnel, de manière à travailler d'ores et déjà, dès les attributions, le lien intergénérationnel. Et puis la spécificité de ce type de programme, c'est qu'effectivement on a un espace commun plutôt au rez-de-chaussée. Ce sont des projets qui se font de manière systématique, de manière très partenariale avec la mairie et un prestataire d'aide à domicile, le principe étant que je vous présenterai si on a le temps un programme un peu plus spécifique, mais le principe étant qu'on a ce lieu commun qui permet à la fois aux prestataires d'aide à domicile d'assurer un service collectif, comme on le disait, mais aussi que les seniors habitant en général au-dessus ou à côté puissent s'en saisir et s'investir dedans de manière autonome. Après, effectivement, on n'a pas encore à ce jour franchi le cap d'aller mutualiser, comme vous le disiez, des espaces de vie ou des espaces de service type effectivement buanderie ou logement qu'on pourrait qualifier d'accueil, quoi, qui permettrait d'accueillir les membres de la famille quand ils viennent visiter les seniors. Voilà, et aujourd'hui, c'est des programmes qu'on n'a pas de difficulté à remplir parce qu'on sent bien qu'on répond à un besoin réel de garder un logement autonome. Et en plus, en général, on est sur des programmes neufs qui sont de fait plutôt attractifs pour les demandeurs de logement senior. Voilà.
Les programmes neufs, oui, se tendent plutôt vers le serviciel. En tout cas, on voit qu'il y a du multi-acteur qui est intégré de plus en plus dans les projets.
Oui.
Pour essayer de synthétiser. Hein.
Oui, oui.
Voilà, et d'essayer de mettre donc du service les communes autour de la table.
Oui, c'est ça.
Ce qui était peut-être moins fait avant, en tout cas, sur la notion de service à domicile intégré dans le programme, c'est ça ?
Ben, en fait, oui, c'est, on va dire, un espèce de package, quoi, si vous voulez. Il y a le logement et on est sur une veille bienveillante qui est apportée par un prestataire de service type ADMR ou d'autres et qui permettent, du coup, de s'inscrire dans un projet de vie global. C'est-à-dire qu'on ne vient pas dans ces résidences juste pour le logement. C'est aussi parce qu'on a besoin du service à côté et parce qu'on souhaite s'inscrire dans un projet un petit peu plus global.
Et comment ça se passe concrètement alors ?
Sur la mise en place,
alors, la mise en place concrète, donc on est sur des attributions de logements traditionnels, logements conventionnés. Et puis derrière, on a, si on parle de notre exemple qui est un peu plus précis, cette fameuse salle dont je vous parlais, avec un système qu'on appelle de veille bienveillante, c'est-à-dire que c'est une maîtresse de maison qui est en général là par demi-journée, qui va visiter quotidiennement l'ensemble des logements, l'ensemble des personnes, pardon, dans leur logement, pour s'assurer que tout va bien. La visite peut durer 2 minutes ou la visite peut en durer 15 s'il y a un besoin plus identifié. Ça, on va considérer que c'est du temps un petit peu individuel. Et puis, il y a surtout aussi des temps collectifs d'animation avec, à minima, un repas hebdomadaire par semaine. On a des exemples, par exemple, de résidences dans lesquelles ce sont les locataires eux-mêmes qui vont faire les courses ensemble le matin, qui décident du menu, qui cuisinent et qui prennent le repas ensemble à midi. Tout ça dans cette fameuse salle commune, avec un temps d'animation proposé l'après-midi. Donc ça permet à la fois, tout en restant chez soi et en gardant le degré d'autonomie qu'on souhaite, au final, de bénéficier de l'aspect social et puis de la veille qui permet de détecter éventuellement les difficultés. Et à ça, on peut associer l'étayage nécessaire en fonction des besoins de chacun d'aide à domicile de manière plus individuelle, quoi.
Donc, ouais, un suivi personnalisé. Et vous, alors, Marie Mollet, est-ce qu'il y aura dans votre futur habitat une maîtresse de maison ? Comment ça va se passer ?
Alors déjà, je réagis sur le langage, parce que je pense que le langage est très important pour nommer les choses et faire transpirer des valeurs et des objectifs qu'on a. Pour nous, je parle pour le coup au nom d'un collectif qui est l'association Maison Partagée et Accompagnée Senior à Pinac. Donc nous en sommes à travailler depuis 2 ans. Et effectivement, nous avons réagi sur ce terme de maîtresse de maison qui évoquait pour nous plutôt une sorte de cadre. Maîtresse de maison, ça veut dire maître, ça veut dire gouverner. Et c'est pas forcément ce que dont on a envie pour animer un collectif de personnes âgées qui ont fait le choix de vivre ensemble. L'idée, c'est vraiment que ces personnes participent avec leurs talents, leurs envies, leurs désirs à la maison, à la vie de la maison. On peut imaginer que c'est une maisonnée où chacun prend sa part. Donc, par rapport à la question des communs que vous avez évoqués, il n'est pas, on ne va pas raisonner qu'en termes d'espace, mais finalement, pourquoi ces espaces et quel sens ça a dans notre projet ? L'idée, c'est que, d'abord, c'est des personnes qui seront volontaires pour partager leur quotidien avec d'autres. Ça veut dire que ce n'est pas forcément gagné pour tout le monde. C'est une solution parmi d'autres. Donc, ils auront envie de partager leurs difficultés au quotidien et d'être aussi, de participer à la vie de la maison. Donc, rappeler quand même que c'est une initiative citoyenne, hein, qui est portée donc aujourd'hui par 12 personnes regroupées en associations. On tient beaucoup à cette dimension de citoyenneté d'un projet qui s'inscrit dans l'économie sociale et solidaire. On n'est pas là pour faire une opération immobilière, on n'est pas là pour faire une maison pour nous, vu nos têtes blanches ou blanchissantes. On nous a souvent posé la question, mais ça va être pour vous. Non, ce n'est pas pour nous, c'est un projet en direction des aînés de notre territoire. À Pinac, peut-être tout le monde ne le sait pas, mais nous sommes à l'extrémité sud-ouest de Loire-Forêt agglomération, à la frange montagneuse du Forêt, et où il y a quand même un indice de vieillissement très important. Bien sûr, on avait des valeurs qu'on portait, les valeurs de partage, de solidarité qui attirent certaines familles et certaines personnes d'Apinac. Il y a un tissu associatif qui est important et on parie sur cette idée pour à la fois soutenir le projet, le faire connaître. Et alors, je me suis peut-être un peu déviée de votre question de départ. Hein. Vous parliez de maîtresse de maison. Donc l'idée, c'est qu'il y aura une équipe de 3 répartis sur 2 équivalents temps plein qui vont réguler cette vie collective au quotidien et qui vont recueillir les envies des gens pour faire des choses ensemble et avec une large ouverture sur l'extérieur. Et notre défi, c'est vraiment de concilier 3 choses. Le respect de l'intimité à travers des espaces intimes, chambres et salles de bain privatives. L'idée d'ouverture sur l'extérieur avec la participation de bénévoles du tissu local pour des animations, la participation des familles et l'idée d'une vie partagée au quotidien dans des espaces partagés pour le coup qui sont la cuisine. Ça c'est très important, la cuisine, c'est le plaisir qui reste pour les personnes âgées, c'est là où elles pourront exercer leur talent aussi et faire des propositions. Et c'est un temps convivial. Je crois que la convivialité, vous l'aurez compris, c'est une dimension à laquelle on tient vraiment beaucoup. Et dimension taille humaine surtout. Et c'est ni résidence, ni EHPAD en miniature, ni établissement recevant du public.
Et combien de chambres ? Combien de chambres pour
8 colocataires. Le défi, c'est d'équilibrer. Il faut que le projet soit viable économiquement parlant. Et il faut garder cette ambiance familiale, conviviale et petite structure.
Et alors vous, Jérôme Massacrier, en tant que directeur général d'une résidence à Bouin-sur-Lignon et directeur de la résidence autonomie, comment est-ce que vous voyez l'émergence de ce type de projet, de ces diversités de projets qui émergent, et comment pensez-vous l'attractivité en fait de la structure qui existe déjà?
Alors c'est vrai que nous, la structure elle a 40 ans. Donc c'est un bâtiment qui n'est pas tout récent, donc on a lancé pas mal de phases de travaux pour retrouver l'adaptabilité par rapport aux résidents. Les constats qu'on a faits, c'est que nous, les personnes qui arrivent en résidence avant arrivaient assez jeunes, maintenant elles arrivent, plus âgées, elles restent bien moins longtemps, et les vraies problématiques qu'on rencontre, c'est sur la partie déjà restauration et autonomie, parce qu'elles sont pratiquement de moins en moins autonomes, la partie sécurité aussi pour la nuit. Et en fait, je me rapprochais de ce que vous dites au niveau de la restauration, ça c'est un point qui est très très important, et nous on met énormément l'accent aussi sur la partie animation. Parce qu'en fait, ce qui reste aux personnes maintenant âgées, c'est l'animation, le profiter de la journée et le profiter des repas en fait. Toutes les structures qui se montent, je pense que c'est très bien. La problématique, j'ai pas la visibilité, je sais pas comment ça va se passer, parce que les personnes qui étaient en structure maintenant, n'auront pas la même mentalité les personnes qui vont arriver après. Donc elles iront plus dans des structures aussi grosses, je pense, que comme celles que nous on a à Bouin. Des structures partagées, je pense que c'est des bonnes choses, et je pense que les gens vont vouloir se regrouper entre eux, on va dire, avec des personnes qu'ils connaissent. Moi, je vois des personnes qui ont 70 ans et qui ont déjà anticipé en se disant on va récupérer un bâtiment, on va se mettre ensemble dedans, en fait. Ça, c'est un vrai défi. Malgré le vieillissement de la population, j'ai bien peur que certaines structures, les personnes restent très peu de temps à l'intérieur, parce que nous, on le voit bien, hein, le département a mis en place beaucoup d'aides pour le maintien à domicile. C'est ce qui a été dit tout à l'heure, on va dire, les gens préfèrent rester chez eux. Quand ils arrivent en structure, c'est souvent trop tard. Et ils ont peur de cette vie en collectivité, en fait. Et après, bon, voilà, la majorité des gens, une fois qu'ils sont rentrés, ils disent « si j'avais su, je serais venu avant ». Mais le souci, c'est qu'il faut pouvoir franchir le pont, en fait.
Oui, voilà, c'est aussi la question de comment est-ce qu'on on permet aux personnes de faire connaître ces établissements, de, qu'elles puissent passer le pas de la porte aussi.
Nous, ce qu'on a fait, ce qui n'avait pas été fait depuis très longtemps, donc on a lancé une grosse campagne de travaux, donc on va communiquer dessus, on est rentré dans un dispositif, on est même retenu dans un projet européen pour ce bâtiment, où il n'y a que 5 bâtiments, et on va dire en Europe, dont un seul en France qui est sur ce bâtiment de la commune. Et on a changé aussi, on a pris des recettes un petit peu dans le privé. Donc on a refait un site internet, on a refait des plaquettes de présentation, j'en ai emmené une pour faire voir. Et on fait participer nos résidents aussi, pour qu'ils jouent le jeu aussi, à présenter un peu la structure. Et dans les animations, ce que j'expliquais tout à l'heure, ce qu'on a mis en place, qu'on a fait l'année passée avec l'équipe, avec Evelyne Perret qui est dans la salle et Nadine, on a participé à un festival en fait sur le département de Loire qui s'appelle le Festival des Cannes, où nous les résidents ont participé à ce festival. Il y avait plusieurs structures, on va dire autonomes, et ça a été un vrai défi parce que nous c'est des personnes qui ont 90 ans et qui n'avaient jamais fait ça, et elles ont adoré en fait.
Vous pourriez présenter juste en 2 secondes ce que c'est pour le Festival des Cannes ?
Le Festival des Cannes, en fait, c'est un festival qui est ouvert aux EHPAD et aux structures autonomes, en fait. Et en fait, le festival, c'était simple. C'était un certain nombre de structures qui avaient été retenues et il y avait une équipe de cinéastes qui venaient pour tourner un film sur chaque résidence. Et en fait, une thématique était imposée. Donc nous, ils sont venus 5 jours sur la résidence. Ils ont déjeuné avec les résidents, on les a mis dans la peau de vrais acteurs, donc ils ont eu des tenues, on a fait des petits montages, et après on a présenté ça lors d'un vrai festival qui s'est tenu début mai à Saint-Chamond, qui était parrainé par un des acteurs des Baudins, et le but c'était comme un festival de Cannes, mais un festival des Cannes pour les personnes âgées. Donc pour les personnes qui ont 80, 90 ans, se retrouver, on va dire, sur un grand écran et participer à un vrai film, ça a été une vraie expérience très enrichissante et ça a été génial.
Alors on vous a aussi là pour clôturer cette table ronde qui est passée très vite. On aimerait bien continuer les échanges très longtemps, mais malheureusement on est tenu par le temps. On vous a demandé de venir avec des projets inspirants, des idées d'ailleurs qui nourrissent vos réflexions. Donc on peut vous donner la parole pour cela.
Chacun sachant que le Festival des Cannes est déjà une inspiration de comment on fait ensemble, hein. C'est quoi ? C'est vraiment les enjeux de demain aussi, de recréer du lien, de voir comment ça peut circuler pour faire territoire. Donc en termes d'habitat, c'est aussi l'habiter, c'est-à-dire au-delà d'aller au-delà du toit sur la tête, c'est comment on habite ensemble un territoire. Et je trouve que c'est assez inspirant pour recréer des liens. Donc
ce qui a été fait, en fait, j'ai amené juste, c'était le projet, c'était avec les animatrices et une autre personne de l'équipe de la mairie, en fait, c'était de partager, de récupérer toutes les informations et toutes les expériences qu'ont pu avoir les résidents et les résidentes au niveau culinaire. Et là, ils ont créé un petit book qui s'appelle « Les papilles de l'Astrée ». Voilà, c'est qu'une ébauche pour l'instant. C'est avec les recettes de chacun, avec les petites anecdotes de chacun aussi. Et on va essayer de le publier et de le mettre déjà aussi sur notre site. Et on va essayer de le diffuser assez large pour montrer un petit peu la richesse qu'avaient nos résidents et résidentes avec toutes leurs recettes, leurs petites... c'était plein de surprises et plein d'échanges très intéressants, en fait.
Pourquoi d'alimenter les assiettes du prochain établissement, alors, c'est ça ? D'autres petites sources et pépites.
Alors si Loire Habitat n'était pas là, j'aurais parlé d'eux, parce qu'en fait je voulais quand même rappeler que il y a un sujet aussi sur la question du coût pour les personnes âgées. Le commun, ça a un coût, et il faut penser à nos seniors qui n'ont pas forcément les moyens d'une résidence à 1500, 1800 euros, et que là on est sur une proposition qui, c'est un logement locatif social, donc un très bas loyer et une adhésion à une association qui a aussi un moindre coût. Donc on est sur un service qu'on pourrait qualifier de minimum, mais les résultats de notre enquête, c'est quand même qu'on a une grosse part de la demande, c'est ça, c'est sécuriser, mais rester chez soi, et à un coût qui est compatible avec les ressources. Et sinon, en termes de... Enfin, quelque chose d'inspirant, alors c'est plutôt par rapport aux premiers éléments qui ressortent de l'étude, je pense que sur la volonté d'aller sur des structures plus petites, plutôt à taille humaine, il faudra penser à la question du commun ouvert vers l'extérieur. C'est pourquoi pas une salle qui est la salle de la résidence, mais qui permet d'accueillir tous les seniors de la commune, voire plus que ça. C'est comment on optimise les coûts. On a des animations dans cette salle, mais pas réservées uniquement aux résidents. On a vraiment une salle qui est à disposition de la commune. C'est peut-être une façon d'optimiser aussi, travailler sur l'équilibre d'opération, qui est complexe. Enfin, pourquoi est-ce qu'on va vers des grosses structures? C'est parce qu'elles sont plus équilibrées ou rentables. Mais les petites structures, si on veut qu'elles fonctionnent, va vraiment falloir travailler avec la commune, la mutualisation des services.
On accompagne toutes les personnes qui veulent mettre en accessibilité leur logement. On a énormément de demandes justement pour prolonger ces personnes âgées à rester à domicile. Et puis, dans le cadre des études Centre-Bourg que Claudine Cour conduit, on travaille de plus en plus sur le parcours résidentiel. Et la maison évolue et doit évoluer avec le temps entre le jeune couple qui se met en ménage, la famille, et puis après la personne âgée. Les logements sont totalement différents et donc tout ce mouvement doit nous enrichir et produire dans le temps des logements adaptés dans les centres-bourgs pour nos personnes âgées. Et on voit émerger de plus en plus de projets dans les communes de multigénérationnels. Donc on mélange, on ne regroupe pas que les personnes âgées. C'est vraiment des maisons intergénérationnelles. Voilà, et du coup, on y réfléchit de plus en plus.
Oui, et le projet qui a répondu le plus à cette demande, c'est notre opération Les Jardins de Romane à Saint-Romain-le-Puy, qui est vraiment avec un tiers-lieu qu'on peut distinguer de deux manières. On a ce qu'on appelle le café papote qui, par définition, est ouvert à tout le monde pour venir papoter. Mais quand je dis papoter, quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. C'est un café qui fonctionne comme un café ouvert. Et dans le même local, de manière distincte, on a ce qu'on appelle le carré des anciens, qui là est plutôt la partie veille bienveillante. Et en fait, toute la partie animation se passe côté café papote, parce qu'on sent bien aussi que chez les personnes âgées, chez nos locataires, que ce souhait, il est aussi de s'ouvrir et de ne pas se renfermer sur quelque chose qui serait sur mesure pour eux. Ils ont vraiment ce souhait-là, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on a identifié, de pouvoir ouvrir. Et puis, on répond aussi à la question financière qui est quand même prégnante, parce qu'on connaît tous le montant des retraites et qu'à un moment donné, le nerf de la guerre, c'est aussi de pouvoir financer tout ça. Après, il y a des appels à projets qui se montent un petit peu pour pouvoir accompagner ça. L'aide à la vie partagée qui va pouvoir quand même permettre de stabiliser un petit peu ces fonctionnements-là. La CAF également, donc voilà, j'arrête.
Pour ajouter au niveau des solutions inspirantes, nous nous sommes très tôt inscrites au sein d'un réseau qui s'appelle le réseau APA, H-A-P-A, qui est le réseau Habitat Partagé et Accompagné, qui est un réseau d'initiatives citoyennes, pour le coup, qui porte les valeurs que nous défendons, aussi.
Eh bien, merci à vous tous pour votre présence autour de ce plateau. Je pense qu'on pourrait finir par une petite question. Donc, justement, quelle place pour la coopération autour de l'habitat? Je pense que vraiment mettre en commun les ressources de chacun pour construire le territoire de demain, imbriqué, assemblé, je pense qu'il y a un vrai enjeu pour ce territoire. Bravo en tout cas pour tout ça.
Vivant.
Des rencontres inspirantes pour changer de regard sur le grand âge.
Vivant.
Parler des initiatives qui font du bien.
Vivant.
Apprendre à vivre avec envie.
Vivant.
Explorer un nouvel imaginaire du vieillissement.
Vivant.
Toi, mon tout, mon roi. Toi, mon toi. Toi, mon tout, mon roi. Toi,
Macron, véritablement tailleux. Et sans doute, comme moi, êtes-vous frappé par deux de ces yeux à l'expression indéfinissable, mais qui me semblent résolument provocatrices. Je parle de l'œil nommé Amber.
Radio Super, la première radio d'Amber.